avant de commencer le message, je vous dire combien je suis reconnaissante en tant que, qu'enseignante ici, en tant qu'équipière ici, combien je suis reconnaissante pour cette présence de Josué actuellement, dimanche après dimanche, en ce lieu. On ne peut pas imaginer à quel point ce lieu est stratégique, stratégique. Et lundi après lundi, donc nous on prépare le chemin, mais lundi après lundi, il y a des cultes qui ont lieu ici, et il y a des impacts, des paroles données, il y a des messages donnés. Vous avez un petit exemple avec le message de Carlo la semaine dernière, c'est puissant. Et puis il y a des louanges puissantes aussi qui s'élèvent. Enfin, c'est un lieu de destinée, c'est un lieu d'appel, c'est un lieu d'envoi, c'est un lieu d'équipement. Et en ce moment, je pense que Benjamin peut le confirmer, il y a quelque chose qui se déploie dans les équipiers, au milieu de nous, hein, la jeune génération. Il y a plein de jeunes qui se lèvent. C'est impressionnant. Un vivier aussi. Hein. Bon, ça, c'était pas du tout le message, mais pour vous dire, je suis très, très reconnaissante. On comprend pas tout pourquoi on n'est pas dans nos locaux. On sait que c'est bien qu'on soit là pour l'instant. Après l'église, on est là, et ce lieu est un rayonnement international. Hein. Les visiteurs qu'on a eus à Colmar, australiens et autres, ils nous ont dit, mais il y a quelque chose, une présence de Dieu sur ce terrain, ça les impressionne. Donc on ne sait pas. Le rayonnement qu'il y a, l'enjeu qu'il y a, et quand je vois les élèves, ce qu'ils portent en eux de souhait, de désir, de rêve, c'est grand, c'est grand. Alors, on n'imagine pas cette pépinière qui est là, cette forêt magnifique qui est en train de pousser, qu'a vu Huguette, hein, une forêt magnifique, des ministères puissants qui sont là. Et donc, oui, merci Seigneur que vous soyez là, qu'on soit là, dans ce lieu précis, c'est pas rien. Dimanche après dimanche, on sème quelque chose, il y a quelque chose qui... Et on soutient surtout, parce qu'il y a quand même... c'est un lieu qui peut être criblé quand même, hein, donc on soutient. Surtout en ce moment, Vigipirate, etc., etc., vous savez, hein. Donc, on dit, Seigneur, tes anges puissants à tout autour de cette école, voilà. Et donc, c'était juste un petit à côté. Et... Donc, je voudrais d'abord, un petit témoignage personnel, mais qui a une signification pour nous tous. Alors, depuis, tout le monde sait, le 7 octobre, on a tous été très secoués par ce qui s'est passé en Israël, très, très, très secoués. Et puis, on a été interpellés pour prier pour Israël de manière plus intense qu'avant. Tout le corps de Christ, toute l'Église mondiale, hein, a été secouée, interpellée. Et puis ça, c'était le 7 octobre, et puis j'étais là-dedans aussi, dans ce mouvement de prière pour Israël, vraiment dedans. Et puis le Seigneur les événements m'ont sorti de là pour me propulser dans un autre pays pour faire tout à fait autre chose. Donc aider à prier pour une naissance double en plus, vous le savez, et puis après, investissement, jour et une partie de la nuit. Bon, les parents, c'était jour et nuit, mais moi, jour et partie de la nuit, avec quelque chose que je n'avais pas fait depuis 30 ans. C'est-à-dire, biberon, couche, tout ça, avec le dos et le dain, enfin, une dimension que je ne connaissais pas, dans un pays que je ne connaissais pas, Neuchâtel, pour moi, et puis là-dedans, quoi. Avec quand même un petit bout qui restait sur Israël, mais je me dis non, parce que c'était très, très, très prenant quand même, hein, cette histoire de bébé, m'occuper de bébé. Et puis en même temps, un très grand bonheur. Alors après, on revient, il y a la rentrée, on s'occupe de la jeune génération quand même, un petit peu de cours, vous voyez. Et puis après, boum, propulsé de nouveau, un mariage. Et en plein week-end où toute la France mobilisait, la France chrétienne se mobilisait pour la marche contre l'antisémitisme, nous, pas du tout, on se réjouissait à un mariage. Avec les mariés, les parents des mariés, on était là-dedans, un mariage. Alors ça faisait bizarre quand même, c'est bizarre, et puis il me semblait bien que le Seigneur voulait parler à travers ça. On vit des choses prophétiques quand même, hein. Quand on est prophétique, on vit des choses très prophétiques. Et j'ai tout à coup révélation. Ah oui, d'accord, le message d'Achim à côté là, à l'église évangélique, le 2 juillet 2023. Il est sur le site d'ailleurs. Le message d'Achim le 2 juillet 2023. Alors peut-être que vous n'avez pas, peut-être que ça va remonter de votre mémoire. Et il avait dit, Achim, avec une très très grande sagesse, il avait dit que Dieu faisait au moins trois choses à la fois. Et il avait dit, alors c'est pas du tout dans l'ordre de priorité, hein, ni de d'importance, hein. En même temps, il s'occupe activement de la restauration physique et spirituelle d'Israël. Vous avez, on a eu plusieurs messages hein, de Marie-Christine. Voilà, message sur ce sujet. Restauration physique et spirituelle d'Israël. C'est vraiment sur le cœur de Dieu. C'est, et puis on va s'en occuper après le message. Hein, donc c'est vraiment sur le cœur de Dieu. C'est vraiment fort. Mais pas que, ça. Deuxième grand axe. La moisson, le cœur de Dieu pour sauver les gens, sauver. Et je pense qu'avec, vous voyez la belle vague, la vague de l'esprit là, qui est imagée par cette magnifique peinture de Carlo, et il y a une vague qui arrive de l'esprit dans toutes les nations, et la moisson qui se profile. Nous, on préparons-nous à faire des choses qu'on n'a pas fait depuis très 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 longtemps dans cette église, c'est-à-dire nous occuper de bébés spirituels. Qu'est-ce que je veux dire ? Nous s'occuper de bébés spirituels, avec deux en plus, jour et nuit, parce qu'ils sont très très soif. On a un de nos collègues qui s'occupe activement de tous les bébés qui sont nés, enfin bébés spirituels, qui sont nés dans le Florival ces dernières années, parce qu'il y en a eu plein qui sont nés, et il s'en occupe, et puis c'est très 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 prenant, hein, très prenant. Donc ça veut dire beaucoup de soins, beaucoup d'implication, beaucoup de joie aussi. Donc préparons-nous. Peut-être ressortir les messages de base, voilà, enfin voilà, c'est un autre axe très important. Et puis troisième axe, c'est une histoire de mariage, c'est la préparation de l'épouse pour les noces. Et ça, Fabienne Point qui le rappelle, hein, il y a une activité intense dans les lieux célestes parce que on se prépare pour les noces de l'agneau. Oui, et c'est beaucoup de joie aussi, beaucoup de préparation, une épouse sans tache, ni ride, lavée par l'eau de la parole, purifiée par le sang de Jésus. Et il y a ces trois choses en même temps. Et tout cela dans un contexte général, alors une église aussi qui est sans tache ni ride, épouse de l'agneau, mais aussi qui est une famille. Et d'ailleurs, une de mes petites filles porte le nom de famille, Oana, famille qui veut dire que personne ne doit être abandonné ni oublié. Ça, c'est très beau. Donc, il prépare l'épouse, il prépare cette famille, il prépare les noces, tout ça à la fois dans un contexte général de restauration de toutes choses. Restauration, le fameux le rétablissement de toutes choses qui est annoncé dans Acte 3. Et le dimanche d'après, le 2 juillet, c'était le même juillet, c'est Luc qui avait parlé, et il avait repris ce texte d'Acte 3 sur le rétablissement de toutes choses, que Jésus est retenu au ciel jusqu'à ce qu'il revienne et que toutes choses soient rétablies. Un temps de rafraîchissement, un temps de rétablissement de toutes choses. Et il avait dit qu'entre la résurrection de Christ et la restauration de toutes choses, il y a un laps de temps, et il y a un chaînon manquant, disait Luc, dans son message du 9 juillet, une étape intermédiaire, et cette étape intermédiaire, c'est, quelqu'un se rappelle, entre la résurrection de Jésus et puis la restauration de toutes choses, quel est le chaînon manquant entre les deux? Il y a nous, c'est nous, et c'est nous en position particulière, on le voit dans Apocalypse 1, 5, 6, en position de sacrificateur. On verra après le passage. Sacrificateur. Et là, je pose une question à tout le monde, sauf à Marie-Christine qui connaît déjà la réponse et qui est trop, trop, trop calée là-dedans. À quel moment dans la Bible on voit pour la première fois apparaître le mot sacrificateur ? Première fois dans la Bible. Vous savez que les premières occurrences, c'est toujours lourd de signification. À quel moment dans la Bible on va pour la première fois apparaître le mot sacrificateur? Ah, exact. Ah, Marguerite, t'es forte. Oui, c'est ça. C'est pas du tout Aaron. Hein. Je pensais que certains diraient Aaron. Non. C'est sacrificateur. Alors, on va prendre ce texte, c'est extraordinaire et très, très, très actuel. Très actuel. Alors, Genèse 14. Donc, c'est un petit peu. Abraham a commencé un petit peu sa marche quand même. Hein. Et on va regarder le contexte, parce que le contexte, il, c'est exactement ce qu'on vit en ce moment. Alors, le contexte, Genèse 14. Donc Abraham a vécu déjà un début de marche avec le Seigneur. Hein, le Seigneur s'est révélé, il a sorti de son environnement idolâtre. Il venait de quelle nation d'ailleurs? Quelle nation actuelle il venait, Abraham? Je vérifie quand même, parce que je le demande à mes élèves deux secondes. Oui, mais c'est quel pays actuellement? Oui, mais actuellement c'est quelle nation? Comment? Irak, c'est l'Irak, ouais. Avec toute la idolâtrie de. Donc il a commencé une marche avec Dieu. Et là, de Genèse 14, du verset 1 jusqu'au verset au moins 9-10, vous avez un tas de noms barbares, hébreux, bizarres, qui sont donnés, plein de noms, une succession de rois, et un mêlé de rois, un tombeau de rois et de conflits, de confrontations et tout ça. Et c'est impressionnant parce qu'en fait, il y a une signification très précise de chacun de ces noms hébreux, et chacun de ces noms fait référence à quelque chose qu'on vit actuellement. C'est impressionnant. Vous savez que la Genèse est très 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 prophétique des derniers temps, hein. Alors on est en plein dedans. Donc un tumulte des nations, je donne quand même, alors si ça vous intéresse, il y a un enseignement absolument magistral et puissant de Natacha Gribisch, pour ceux qui la connaissent, hein. Il a donné la signification exacte de chacun des noms hébreux que vous voyez énumérés, enfin il y en a plein de noms hébreux, et elle donne la signification actuelle, précise de tous ces noms. C'est impressionnant. On est complètement dans l'actualité, hein. Je vous donne un exemple, par exemple, il s'agit de nations vraiment en tumulte, ce qu'on vit actuellement, hein. Par exemple, Amraphel, verset 1, Genèse 14, verset 1. Amraphel, premier nom qui apparaît, ça veut dire en hébreu annonceur de ténèbres. Ouais, ouais. Roi de Shinéar, c'est Babylone. Voilà. Tidéal, un autre nom, hein, qui apparaît à la fin du verset 1. Tidéal, puissant fils de qui on doit avoir peur. Et puis Goyim, c'est les nations. Les nations. Ensuite, vous avez Elam, évidemment, c'est l'Iran actuel. Voilà, l'Iran. Donc, on ne va pas détailler, ce n'est pas le moment. Mais il s'agit de souverains de grandes puissances de l'époque. Au verset 1, hein. Vraiment de grandes puissances de l'époque, et il s'agit aussi de principautés de ténèbres. Et au verset 2, on change de, c'est plus les grandes puissances, c'est des rois des villes cananéennes, donc actuel Israël, hein, les villes cananéennes de la plaine. Par exemple, Béra, que vous avez en verset 2, roi de Sodome, ça veut dire fils du malin. Bircha, un autre nom, oui, roi de Gomorre, avec iniquité. Sodome, ça veut dire le lieu qui brûle. Gomorre, ça veut dire immersion, traité comme un esclave. Bila, ça veut dire destruction. Donc chacun de ces noms est lourd de signification, et c'est vraiment des puissances de ténèbres. Alors, des confrontations entre eux, hein, c'est toute cette activité démoniaque. Et au verset 5, en plus, ils battent contre eux des drôles de gens, les Réphaïm, les Carnaïm, les Ouzim, les Enim. C'est des géants qui habitaient à l'époque Canaan. Et Enim, ça veut dire ça, les terreurs. Donc ça, les terreurs. Donc c'est vraiment une description. On ne va pas dans le détail, mais on pourrait le détailler parce que c'est très très précis. Une description de ce qui se passe du côté démoniaque. C'est des rébellions, c'est des rois qui s'entretuent, enfin toute l'agitation qu'on voit actuellement dans l'actualité entre les grandes puissances qui s'affrontent. Et puis, comme par hasard, il y a quelque chose de très intense, spécifiquement sur la terre d'Israël actuellement, hein. Donc, je vous fais pas, vous savez très bien, très bien. Et puis là-dedans, vous avez Lot capturé. Ça parle aussi d'actualité, ça, hein. Lot capturé. Et puis pas que tout seul, on voit après que c'est pas lui tout seul qui est capturé, il y a aussi des femmes qui sont capturées, enfin c'est vraiment impressionnant d'actualité. Et puis Abraham, là, eh bien, il cherche à récupérer son neveu, et là on voit vraiment l'esprit du père en Abraham qui veut sauver sa famille, même si Lot a fait un très mauvais choix, il veut quand même le sauver. Et il fait tout pour le sauver. Alors là aussi, on va voir, il a une victoire verset 15, une victoire absolument, complètement surnaturelle, 318 personnes. On voit Abraham sous la forme d'un formidable guerrier, un stratège aussi, que ce soit des inspirations de Dieu. Et Abraham, là, il fait franchement penser, quand on regarde le verset 16, il ramena tous les biens, Abraham, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. C'est de la restitution totale. Et ça, forcément, Abraham, là, il vous fait énormément penser à quelqu'un qui a tout restitué, tout ramené, tout sauvé. C'était David à Tsiklag, un passage aussi très actuel qui a été donné pour la situation actuelle. Récupération et sauvetage de tout le monde. Donc ça, c'est Abraham dans ce côté très, très guerrier. Il peut pourrait dire aussi plein de choses parce qu'il y a dans le nord d'Israël, aux portes d'Anne, c'est vraiment un lieu de confrontation aussi avec les ténèbres. Et puis là, ça s'arrête à verset 16. Et puis, verset 17, vous avez Abraham qui revient vainqueur, donc, après une victoire totalement surnaturelle. Et vous avez le roi de Sodome qui sort à sa rencontre. Le roi de Sodome arrive dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Et on dit que c'est bien dans les environs immédiats de Jérusalem, tout ça. On se situe à Jérusalem. Et donc Sodome vient vers lui. D'ailleurs, on se demande, parce que verset, j'ai pas compris, parce que verset 10, ils disent que Sodome est tombé, le roi de Sodome est tombé. Bon, apparemment, il n'est pas si tombé que ça, parce qu'il est toujours là. Il revient à la charge. Verset 17. Et là, sans aucun lien avec ce qui précède, on a donc ce tourbillon des nations, ces confrontations démoniaques, là, on a trois versets qui ont rien, apparemment rien à voir avec le contexte, mais vraiment rien. Et après, au verset 21, on reprend avec le Sodome, le roi de Sodome. Le roi de Sodome dit à Abraham, comme si il ne s'était rien passé entre le verset 17 et le verset 21, trois versets, sans rapport avec le contexte. Et le roi de Sodome, comme s'il n'avait absolument pas vu ce qui s'est passé dans les trois versets, qui continue son emprise, sa tentative d'emprise sur Abraham. C'est très étonnant quand même, très très étonnant. Ces trois versets, au milieu de nulle part, là, qui arrivent. Et en plus, on parle d'un roi dont on n'a absolument pas parlé. Alors Melchisédek, roi, ça veut dire roi de justice, hein, vous le savez. Roi de Salem, Salem c'est Jérusalem, c'est aussi le roi de la paix. Un roi de paix, un roi de justice, qui fait apporter du vin et du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. La première occurrence, sacrificateur, Cohen en hébreu. Il est Cohen du Dieu Très-Haut. Là aussi c'est la première, elle est lionne, la première occurrence du Dieu Très-Haut. Et ce personnage fait deux choses, il fait deux actes, il apporte du pain et du vin, donc il fournit le pain et le vin, et il bénit. C'est vraiment deux actes, pain et vin, il bénit. Et là, il fait apporter du pain et du vin, figurez-vous, alors j'ai cherché dans la Bible, où est-ce qu'on voit dans le Tanakh, hein, dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, un autre endroit où il parlait du pain et du vin dans le sens de partage, de communion. Où est-ce qu'on voit apparaître ça? Moi, je n'ai rien trouvé. On parle à un moment de pain et vin, mais pas du tout dans un contexte de partage et de communion, pas du tout, du tout. Aucune occurrence de pain et de vin dans un contexte de partage. Et il faut attendre Matthieu 26. Retrouver la même chose, pain et vin, avec la Sainte Cène. Entre les deux, il n'y a pas. Alors, évidemment, on a tous compris que Melchisédek, c'est Jésus. Évidemment, c'est Jésus. Mais ce qui est très, en méditant sur ce passage, il y a quelque chose d'extrêmement touchant. Parce que la première chose que fait Melchisédek, il se positionne avec Abraham. Donc, rappelons-nous qu'Abraham a déjà une relation intime avec Dieu, un chemin qu'il a parcouru. Il apparaît. Il est absolument invisible pour Sodome. Sodome, il est peut-être à côté, mais il ne voit rien du tout. Il ne voit rien, rien, rien. Ça dépasse son entendement, ce n'est pas dans sa sphère de compréhension, le roi de Sodome. Hein. Il n'y a que Abraham qui voit. Que Abraham qui voit Melchisédek. Et il a peur du pain et du vin. Et ce qui est très touchant, et même, ouais, c'est à côté, ouais, même bouleversant, c'est que le pain et le vin, ça parle déjà du sacrifice de Jésus. Melchisédek, roi de justice, roi de paix, c'est par le sacrifice de Jésus, tout de suite. Et c'est lui qui fournit le pain et le vin. C'est pas, il n'a pas demandé à Abraham de le fournir, c'est lui. Il fournit. Il fournit le repas de communion. Il fournit un repas de sacrificature, quoi. Pain et vin. Il fournit tout. Et on sait que là, c'est lui qui nous justifie, c'est lui notre justice. Il a tout, tout fait. Et il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Et là, il nous donne tout de suite ce que c'est que la sacrificature pour nous, les nouveaux sacrificateurs. Hein. Ce n'est pas selon l'ordre de Baaron, c'est vraiment selon l'ordre de Melchisédek qu'on est sacrificateur. C'est-à-dire, notre premier appel, donc, comme j'avais déjà partagé en septembre, c'est bénir. Et il est aussi sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham, verset 19, il dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre ». Alors, elle est lionne, Dieu très haut, et quand on dit maître, en hébreu, c'est pas du tout la notion de créateur, ça n'a rien à voir avec la création. C'est kana, ça veut dire celui qui a acquis, celui qui possède, par achat ou rachat. Il a acquis, par son sang en fait, maître du ciel et de la terre. Il a ce droit, il possède le ciel et la terre parce qu'il l'a acquis par le sacrifice de Jésus, c'est racheté. Béni soit le Dieu très haut, le Dieu qui a livré, pas c'est composé, hein. Il a livré les adversaires entre tes mains. Donc on on se positionne, c'est une révélation pour Abraham et pour nous tous, d'un Dieu très élevé, d'un Dieu qui est déjà acquis, le ciel, la terre, tout lui appartient, parce qu'il a payé le prix pour ça, il a tout racheté à l'ennemi. Béni soit le Dieu très haut, il a livré les adversaires entre tes mains. Et voyez, la révélation très très forte d'Abraham, la victoire est là, elle est déjà acquise, c'est déjà fait, c'est fait. Et Abraham donne la dîme de tout. Alors là, donc, la dîme, il y a aussi plein de choses à dire, hein. Il donne la dîme de tout, une consécration totale, une reconnaissance que, en fait, Abraham, il appartient à ce royaume de justice et de paix. Il appartient et il le montre avec le partage du pain et du vin, c'est pas dit, mais c'est évident qu'ils ont partagé le pain et le vin, et il le montre avec la dîme. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Partage pain et vin, bon, là, les offrandes des dîmes, ça va avec, partage du pain et du vin. Et Abraham, il a une partition d'onction, il a une partition de révélation. Il a dans cette intimité, dans ce cœur à cœur, ça va, ce matin on n'est pas tombé, c'est comme un cœur à cœur, une intimité de Dieu avec nous, et bien recevons cette impartition de la révélation du Dieu très haut, qui est maître, roi de la terre, maître du ciel et de la terre, et qui a livré les adversaires entre nos mains. Et après, ce qui est extraordinaire, c'est que cette impartition, cette rencontre, va équiper Abraham pour une confrontation qui est assez forte. Hein. Le roi de Sodome dit à Abraham, alors là on n'est plus dans la violence, on est dans la séduction, dans les tentations. Donne-moi les personnes, plus précisément en hébreu, donne-moi les âmes, prends pour toi les biens. Parce que le roi de Sodome, qui est une principauté, on la convoite, c'est les âmes. Il y a une guerre pour les âmes. Et toi, prends les biens. Donc un échange, un marchandage, une négociation. Et Abraham, vous voyez, il a reçu cette révélation, on le voit dans sa réponse verset 22, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Il reprend exactement les mêmes termes que ceux qu'a employé Melchisédek. « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Donc il a cette révélation, il se l'est approprié avec cette rencontre forte avec Melchisédek, complètement approprié, et après, peut confronter. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni une bride de sandales, pour que tu ne puisses pas dire j'ai enrichi Abraham. Et là, il résiste à une tentation qui était quand même qui était forte. Hein. Et ça veut dire que pour nous, ça veut dire que c'est dans l'intimité avec notre roi de justice et de paix qu'on peut résister et se délier de toute tentation, tout ce qui voudrait nous faire des compromis avec Babylone, hein, avec les principes de Babylone, avec Sodome. Et rappelons-nous aussi que Sodome, ce qui a été très reproché par Dieu à Sodome dans Ézéchiel 16, c'est qu'il n'avait aucun souci des pauvres et des faibles. Aucun souci. Et ce qu'on voit, c'est que, si vous voulez, c'est cette communion, cette rencontre qui nous donne la force de et non seulement de refuser, mais de discerner les compromis et les tentations et de nous garder de toute influence de Sodome et donc de Babylone avec. Hein. Et Melchisédek instaure un nouveau type de relation. On voit que dans tout le chapitre, enfin dans tout le début du chapitre, la relation c'est dominant-dominé. Je t'écrase, je te domine. Tout est fondé sur la relation dominant-dominé. Sodome, hein, c'est-à-dire aucun respect du faible, du pauvre. On est dans je fais de toi mon esclave, tu me respectes, je t'opprime, je te menace. Et on est sur un tout autre type de relation fondée sur le don de soi, hein, avec Melchisédek, sur la communion, sur le respect des identités. Et c'est ce qu'on fait avec les Watchmen, pour ceux qui connaissent. Hein. À chaque fois, c'est l'homme nouveau, c'est des repas de communion. Et c'est le type de relation qui est celui du royaume de Dieu, de la Nouvelle Jérusalem. Et c'est celui qu'on veut vivre de plus en plus dans l'Église et aussi dans les écoles chrétiennes. Et là, je peux vous dire, il y a un défi. Pour amener les jeunes à vivre la qualité relationnelle du royaume de Dieu. Et bon, il y a des beaux succès quand même. Hein. Je pense à la mission à Colmar qu'ils ont faite avec cette qualité relationnelle avec des étrangers. Ça vient. Et puis nous, dans l'équipe, bien sûr, on essaie de vivre cette qualité relationnelle. Mais voyez l'enjeu. Hein. Dire, vous n'êtes pas dans le royaume de ce monde, vous êtes dans un royaume de Dieu, avec une nouvelle qualité relationnelle. Et donc, dans ces temps, on est quand même confronté très fortement avec l'empire de Sodome, Gomorre, Babylone, tout ça, et beaucoup, beaucoup, énormément d'agitation, de tumulte dans les nations, avec tout ce que, exactement ce que donne le verset Genèse 14, hein, plein de tumulte, d'agitation. Et nous, il nous faut connaître, dans la communion, dans l'intimité, il nous faut connaître Jésus, le roi de justice et de paix, et le roi de Jérusalem aussi, roi de Jérusalem, roi de Salem, roi de Jérusalem. Ça aussi, c'est très actuel, hein, roi de Jérusalem. Et c'est très puissant pour nous permettre de tenir bon, quelles que soient les pressions. Donc, et il y a un autre passage vers l'Apocalypse, parce que ça montre à quel point Genèse et Apocalypse, ça va ensemble. Et après cette extraordinaire rencontre d'Abraham, la suite c'est fabuleux, Genèse 15 verset 1, juste après, on peut retenir pour nous hein, ces termes, soit sans crainte Abraham, chapitre 15 verset 1, soit sans crainte, donc ça va pour nous, soit sans crainte, membre de Josué, soit sans crainte, église Josué, je suis moi-même ton bouclier, donc une protection totale, et je suis ta très grande récompense. Parce qu'il y a des traditions qui disent « ta récompense sera grande ». Non, c'est Dieu lui-même notre récompense, c'est sa présence notre récompense. La révélation de qui il est, c'est ça notre très grande récompense. Sois sans crainte, on peut l'approprier pour nous, sois sans crainte, je suis moi-même ton bouclier et ta très grande récompense. Ça, c'est le fruit de cette rencontre, cette communion, et aussi de ce positionnement de rester absolument pur de tout compromis avec les ténèbres. Alors, après, il ne va plus paraître Melchisédek, plus rien, jusqu'à, quelle est la deuxième occurrence dans toute la Bible ? Oui, David, c'est-à-dire, oui, c'est ça, psaume 110, c'est la deuxième occurrence, après il n'y a plus rien, jusqu'à Hébreu, voilà, après c'est bien détaillé dans Hébreu. Et là, psaume 110, on va le prendre parce que c'est aussi très actuel, ah oui, tout à fait actuel, hein. Voilà. Et en plus, ça parle aussi de l'éducation chrétienne, hein, Melchisédek. Et c'est ce que, aussi le psaume que tu nous as fait prendre, psaume 99. Hein. Donc, psaume 110, on va voir combien il est actuel. Psaume 110. Un tout petit psaume. Et alors, mais qui est en même temps très, très important parce qu'il a été repris, il y a un verset qui a été repris plein de fois, une bonne dizaine de fois dans le Nouveau Testament. Alors, psaume 110. Oracle de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et ce verset-là, précisément, il est repris au moins une dizaine de fois dans le Nouveau Testament, à différents endroits. Hein. C'est impressionnant, c'est un verset clé. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse des ennemis ton marchepied. Et nous, ça veut dire que quand on s'approprie, on médite ce verset, on a la révélation que les ennemis sont déjà le marchepied de Jésus. La victoire, elle est là. Elle est là. Et on se positionne dans cette victoire totale qui est en cours de manifestation dans le concret, hein, mais qui est déjà acquise en Jésus. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Et ça, c'est un verset pour Jésus et pour nous, chacun de nous. Il y a même un titre de livre, de John Lewis, « Domine au milieu de tes ennemis ». Et ça nous donne, ça nous fortifie dans nos positions de totale victoire sur tous nos ennemis, de santé, tout. « Domine au milieu de tes ennemis », parce que c'est Jésus en nous qui domine. « L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance ». Il y a une puissance qui grandit. Le Sion, c'est Jérusalem, c'est Israël. « L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance ». Et après, le verset 3, alors là, c'est ce qu'on est en train de vivre. « Ton peuple est plein d'ardeur, ou d'offrandes volontaires aussi, hein, où tu rassembles ton armée ». Et s'il n'y a pas un temps de rassemblement de l'armée actuellement sur la planète, on est en plein rassemblement. On vit des choses, comme on va le vivre tout à l'heure avec cette prière qu'on fait ensemble avec les églises et les synagogues. On est au niveau mondial, on est des millions d'intercesseurs pour Israël connectés par Zoom, machin, etc. On n'a jamais été aussi... Il y a un esprit qui est en train de nous rassembler comme jamais. Le jour où tu rassembles ton armée, avec des ornements sacrés, alors ornements sacrés, ça parle de magnificence, et sacré, ça parle de sainteté aussi. Tu rassembles ton armée, notre traduction d'Arby, je crois, en sainte magnificence. Il nous sanctifie, il nous revêt de splendeur. C'est exactement Zacharie 3. Vous savez, on avait les vêtements sales, il nous revêt de splendeur. Et du sein de l'aurore te viendra la rosée de ta jeunesse. À toi la rosée de ta jeunesse. Dans notre traduction, tes jeunes gens viennent à toi comme une rosée. Et ça, ça nous dit, dans ce réfectoire, appel particulier sur la jeune génération en ces temps. Et on sait qu'il y a quelque chose qui grandit, de quelque chose de radical, de consacré dans cette jeunesse, un appel sur la jeunesse en ce temps. Et c'est cette jeunesse-là qui va surfer sur l'immense vague de l'esprit, on le sait, hein, pour nous, on sera avec, hein, on sera avec. Mais il y a un appel très particulier sur la jeune génération. Et donc Dieu est en train de lever une armée absolument sainte, purifiée de tout compromis avec Babylone et Sodome, etc., avec sa mentalité, sacrificateur fondé dans l'amour de Dieu. Et là, on va prendre Apocalypse 1, 5, on est vers la fin là, parce qu'après on voudrait pratiquer, prier. Apocalypse 1, 5, qui nous dit « à celui qui nous aime ». Là, on n'est pas dans une relation dominant-dominée, hein. On est dans l'amour qui se donne, l'amour qui donne tout, l'amour de Jésus. À celui qui nous aime, le fondement, c'est Dieu qui aime. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, bon, on est libéré du péché, mais ça ne s'arrête pas là, il y a quelque chose de tellement énorme derrière, et parfois, souvent, on s'arrête là, on dit, ok, on est délivré de nos péchés par son sang, merci Seigneur, trop bien. Attendez, il y a la suite, il y a une ambition qui a fait de nous un royaume de justice et de paix. Et je rajoute de la joie. Alors vous allez dire, ça n'apparaît pas dans tout ce qu'on a lu, la joie. Ah, non, ça n'apparaît pas, le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice, la joie, par Saint-Esprit. Où est-ce que la joie, elle apparaît avec l'histoire d'Abraham? Elle apparaît dans l'évangile, Jésus qui dit, Abraham a tressailli d'allégresse et s'est réjoui quand il a vu mon jour. Donc Abraham, c'est pas dit dans Genèse, mais c'est dit ailleurs, il était très joyeux, il se réjouissait, il y a énormément de joie. Royaume de Dieu, paix, justice et joie par le Saint-Esprit, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de péché par son sang, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire, le pouvoir au siècle des siècles. Et puis ça réapparaît dans Apocalypse 5, et ça apparaît dans Pierre, un sacerdoce royal. Donc l'ambition de Dieu, c'est qu'on soit, nous, un royaume, des sacrificateurs, donc roi, sacrificateur. Et là, il y a une interpellation, on a été dans un temps de prière récent avec les intercesseurs, on a été interpellés, le Seigneur nous disait, et puis ici, il n'y a pas de bébé spirituel là, ce matin, il n'y a pas de bébé spirituel, donc on est tous entre, pour dire, le Seigneur nous dit, mais je vous ai donné une énorme autorité, saisissez-la, activez votre autorité, dites les choses, agissez, parlez, et surtout parlez, décrétez, appelez, vous avez l'autorité, on est sacrificateur, on a l'autorité pour bénir, on a l'autorité aussi pour mettre dehors ce qui doit être mis dehors de ténèbres, on a cette autorité et Seigneur nous attend quoi, et bon, on l'utilise déjà cette autorité, mais de plus en plus quoi, on a cette autorité, et on va l'utiliser aussi dans la prière tout à l'heure, hein. Donc il est en train de lever de toute génération des sacrificateurs fondés dans l'amour de Dieu à celui qui nous aime, la première chose, qui sont humbles parce qu'ils savent que sans Jésus et sans Jésus ils seraient dans le péché, hein, qui savent qu'ils ont été délivrés du péché par le sang de Jésus et qui savent aussi ce qu'ils sont devenus uniquement par la grâce, donc il n'y a aucun moyen de se glorifier, hein. On est des rois, des sacrificateurs, on porte l'esprit de Melchisédek en nous, c'est-à-dire roi de justice et de paix. Quand on enseigne dans cette école par exemple, justice, paix, dans la salle de classe, c'est là, quoi. Et partout où on va, dans tous les milieux de travail, justice, paix, parce qu'on porte, on est porteur de Melchisédek. On a cette autorité que Dieu nous a donnée. Et puis, bien sûr, à la suite d'Abraham, on attend, on participe à hâter la venue de la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et on est ami de Dieu, comme Abraham, pour comprendre et partager ce qui est sur son cœur. Et donc, terminé avec Apocalypse 3.20. Alors, j'ai bataillé avec ce passage, Apocalypse 3.20, vous connaissez, hein, c'est à Laodicée. Alors moi, je disais, Seigneur, on n'est pas, non, nous, on n'est pas Laodicée. Nous, on est Philadelphie, d'abord. Laodicée, c'est pas nous. Non, parce que, voilà, c'est assez négatif. Mais j'ai compris, c'était pas négatif, c'est plein d'amour. Même la lettre à Laodicée, elle est pleine d'amour. Ça veut dire, parce que, il dit, achète du collier, prends du collier parce que tu as besoin de voir beaucoup plus de révélations que ce que tu as. Hein, on prend dans la foi le collier, on a besoin de grandir dans la révélation, que nos yeux s'ouvrent sur la puissance de Melchisédek, qu'on le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que les Gomorres, Sodome et tout ce qui s'agite autour de nous, dans les médias, les nouvelles et compagnie, qu'on le voit. Enfin, la révélation, un collier, et puis cette invitation très forte de Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix ou la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et puis, on peut discuter, mais dire, Seigneur, mais ça s'adresse à des chrétiens, hein. Je trouve que j'ai déjà une communion avec toi. Enfin, ça, c'était mon dialogue. Bon, Seigneur, quand même, une communion. Non, mais je veux beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Souper avec toi, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est un partage, une communion, une intimité que Melchisédek habite en nous. Qu'on soit porteur de Melchisédek à très haute dose, dans une dimension, une envergure. Et en ce moment, c'est curieux parce qu'on prie pour pas mal de personnes et à chaque fois, c'est la même chose. Il y a un déploiement qui est devant nous, un déploiement de l'être spirituel que chacun de nous en est. Et là, on n'est peut-être pas nombreux, mais le potentiel et l'aide spirituelle de chacun de nous, c'est énorme. Et le Seigneur dit, tu te déploies là, allez, étends les cordages, étends les tentures, étends, c'est énorme. Et on est appelé à nous multiplier, et on est appelé à être fécond. Abraham est devenu Abraham, père d'une multitude de nations. Ici, c'est Josué a un appel pour les nations. Cette école a un appel pour les nations. Et Abraham, chacun de nous, dans notre version Abraham, on est en train de nous métamorphoser. Il y a un Abraham, père et mère, père de père et mère, d'une multitude, donc une extraordinaire fécondité. Et restitution aussi de tout ce qui a été pris, le Gédèque a dit, etc., etc., etc. Donc maintenant qu'on a entendu la théorie, comme le Seigneur est très pratique, et là, on va passer à la pratique justement, parce qu'on va prendre le pain et le vin. Donc peut-être dans cette dimension, je vous propose dans cette dimension de Melchisédek. Qu'on accueille Jésus Melchisédek. C'est rare hein, qu'on adore Jésus Melchisédek. Je ne sais même pas s'il y a des chants qui parlent de Jésus Melchisédek. J'en connais pas. Cette facette spéciale est tellement immense, énorme et actuelle de Jésus Melchisédek, bien qu'on accueille. Parce que Jésus, il y a le bon berger, il y a plein, on a chanté Yahweh, le bon berger. Il y a plein de facettes de Jésus, mais qu'on accueille cette énorme facette de Jésus qui est Melchisédek. En relation avec la sacrificature. Et donc, qu'on accueille dans ce temps de Sainte-Seine, qu'on peut vivre ensemble. Et puis après, avec l'autorité que nous recevons, parce qu'on est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qu'on puisse prier avec autorité, foi et espérance sur tous les sujets que va nous partager ensuite Huguette. Ça vous va pour ces temps à venir? On pratique, si vous voulez, ce qu'on a reçu. Je suis convaincu. Bien sûr, ça, c'est pas que pour nous présents ici, c'est pour tout Josué, bien sûr. Hein. Et pareil, tout ce qui vit à Lune, tout ce qui vit à France en Feu, c'est aussi pour nous. Hein. On se partage tout ça. Mais qu'on puisse rentrer dans cette dimension de révélation de Melchisédek. Il est en train de lever des sacrificateurs selon son cœur et c'est avec une autorité énorme. C'est l'armée de Joël 2 aussi. Enfin, c'est tout ce qu'il est en train de faire. L'armée mondiale qui se rassemble, c'est extraordinaire. Donc, nous ne sommes pas pollués par les médias et les nouvelles des médias. Ça n'a rien à voir. Le royaume de Dieu, lui, il est. On voit ses roues dans les roues des Ézéchiel qui avancent très, très, très fort. C'est énorme. Et on se réjouit. On se réjouit beaucoup, d'ailleurs. Et la multiplication et plein de bébés et tout. Et les mariages, la préparation de l'âge qui arrive. Beaucoup, beaucoup de joie. Donc, on se réjouit.